ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 25 août 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Le Hezbollah cible des bases et centres militaires israéliens. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les déclarations du leader de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, à l'occasion de l'Arbaïn, la lutte contre l'oppression se poursuit, a-t-il dit. Salve de roquettes et de drones sur Israël, le Hezbollah riposte à l'assassinat de Fouad Choukr. Et puis le président iranien Massoud Pezeshkian appelle les musulmans à s'unir pour contrer Israël et l'Occident. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a déclaré que la lutte contre l'oppression se poursuit depuis l'ère de l'imam Hossein, béni soit-il, ajoutant que la bataille a pris diverses formes à différentes époques. Il a fait ses remarques lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté ce dimanche 25 août des étudiants commémorant le deuil de l'Arbaïn, marquant le 40e jour du martyr de l'imam Hossein, le troisième imam chiite, béni soit-il. L'ayatollah Khamenei a déclaré que la bataille est perpétuelle entre le front des fidèles aux idéaux de l'imam Hossein, qui lutte contre l'oppression, le front de l'injustice et de l'oppression. Le combat qui oppose le front de l'imam Hossein à celui des Yazidis est interminable, a-t-il ajouté. Le leader a également noté que ces deux fronts existaient avant l'ère de l'imam Hossein jusqu'à aujourd'hui et qu'il en sera toujours ainsi. Selon les circonstances, le front de l'imam Hossein a affronté l'oppression de différentes manières. À l'ère de l'épée et de la lance, elle s'est faite d'une manière et à l'ère de l'atome et de l'intelligence artificielle, elle doit se faire d'une autre manière, a-t-il affirmé. Le mouvement de la résistance libanais Hezbollah a mené des frappes de roquettes et de drones à grande échelle contre des positions israéliennes situées au plus profond des territoires occupés, en représailles à l'assassinat par Israël d'un haut commandant militaire du groupe de résistance le mois dernier. Le Hezbollah affirme avoir tiré plus de 320 roquettes sur 11 sites et bases militaires israéliens. Le mouvement affirme que la première phase de l'opération s'est déroulée avec succès. Le Hezbollah a rejeté comme sans fondement les allégations d'Israël selon lesquelles il aurait mené une action préventive contre le mouvement de résistance libanais. La résistance libanaise a confirmé que les forces israéliennes n'avaient pas réussi à intercepter et à abattre les drones lancés par les combattants de la résistance. Une source du Hezbollah, s'exprimant sous couvert de l'anonymat, a déclaré dimanche à la chaîne de télévision qatari Al Arabi que les combattants du Hezbollah avaient réussi à leurrer l'armée israélienne pour lancer de lourdes volées de roquettes. Les combattants du Hezbollah libanais sont totalement capables de frapper deux sites stratégiques sur le flanc nord de la ville côtière de Tel Aviv, dans les territoires occupés par Israël en 1948, ajoute la source, précisant que les détails de l'opération seront révélés ultérieurement. Pendant ce temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué une réunion d'urgence du cabinet de sécurité pour discuter de l'opération du Hezbollah. Le régime d'occupation a également déclaré l'état d'urgence pour 48 heures, les autorités ayant ordonné la fermeture de toutes les universités et plages de la ville portuaire de Haïfa jusqu'à nouvel ordre. Daniel Agari, porte-parole de l'armée israélienne, avait également affirmé que le Hezbollah se prépare à lancer une attaque de grande envergure contre les territoires occupés de la Palestine. Fouad Choukr est tombé en martyr lors d'une opération d'assassinat ciblée à Beyrouth, la capitale du Liban, fin juillet. Le Hezbollah s'est engagé à riposter fermement au régime sioniste. Le président iranien Massoud Pezeshkian a condamné la guerre génocidaire menée par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. Le régime occupant et les États-Unis n'auraient pas osé perpétrer de crimes dans la région si les musulmans avaient été unis, a-t-il déclaré. Le président Pezeshkian a fait ses remarques samedi 24 août lors d'une cérémonie pour renouveler l'allégeance de son cabinet aux idéaux de l'imam Khomeini, défunt fondateur de la République islamique d'Iran, tenu dans son sanctuaire au sud de Téhéran à l'occasion du début de la semaine du gouvernement. Évoquant les crimes commis par le régime israélien à Gaza, le président iranien s'est interrogé : Israël aurait-il osé faire quoi que ce soit dans cette région si les musulmans avaient été unis ? Non seulement eux, mais les États-Unis, l'Europe et n'importe quelle autre puissance auraient-ils pu faire une chose pareille ? Abordant un certain nombre de problèmes économiques en Iran dus aux sanctions imposées par l'Occident, le président Pezeshkian a indiqué : Dans notre propre pays, nous n'avons pas d'autre moyen de résoudre nos problèmes que de renforcer l'unité et la cohésion interne. En outre, il a exprimé sa gratitude au Parlement pour l'approbation de sa proposition de composition de cabinet et la considère comme un grand message et un début de progression vers l'unité générale. Les pays musulmans, en particulier l'Iran et la Turquie, doivent organiser davantage de consultations pour contrer les manœuvres déstabilisatrices du régime israélien dans la région, a indiqué samedi 24 août le ministre iranien des Affaires étrangères à Bansarorchi lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc Hakan Fidan. Abbas Arorchi a déclaré que l'Asie de l'Ouest était confrontée à une intensification des crises et aux actes déstabilisateurs du régime israélien pour provoquer davantage de tensions dans la région. Il a souligné l'importance de l'amélioration des relations entre l'Iran et la Turquie et a exprimé la volonté de Téhéran de stimuler des discussions constructives dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Pour sa part, Hakan Fidan a félicité Abbas Arorchi pour sa nomination au poste de ministre iranien des Affaires étrangères et a déclaré que la Turquie était prête à poursuivre les consultations politiques avec l'Iran dans le but de renforcer les relations bilatérales. La Turquie souhaitait coopérer avec l'Iran sur les principales évolutions régionales et internationales, en particulier sur les tensions actuelles dans la région de l'Asie de l'Ouest, a-t-il indiqué. Sachez d'autre part que le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y aurait ni hâte ni retard inutile en ce qui concerne les pourparlers concernant les sanctions imposées par l'Occident contre Téhéran. « Nous poursuivrons les négociations liées à la levée des sanctions », a ajouté Abbas Arorchi. Le nouveau chef de la diplomatie iranienne s'est rendu ce matin au saint mausolée de l'honorable Abdol Azim au sud de Téhéran, un lieu sacré où est enterré l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, le martyr Hossein Amir Abdollahian. Évoquant la question diplomatique lors d'un bref échange avec les journalistes internationaux, Arorchi a déclaré « Dans l'interaction et les relations avec le monde, les pays voisins et les États de l'Eurasie constituent notre priorité ». Le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères a souligné qu'il n'y aurait ni hâte ni retard inutile dans les pourparlers concernant les sanctions. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le Hezbollah cible des bases et centres militaires israéliens. Le Hezbollah libanais a annoncé samedi dans des communiqués distincts avoir ciblé plusieurs bases militaires et centres du régime d'occupation sioniste au moyen des drones et des mortiers et causé des dégâts à l'ennemi. En soutien à l'inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza assiégée et à sa résistance courageuse et honorable, en réponse aux attaques ennemies contre des villages et des maisons du sud du Liban, les combattants de la résistance islamique ont ciblé ce samedi les attroupements de l'armée sioniste sur le site militaire de Hamron au moyen d'un drone qui a directement touché la cible, a fait savoir le Hezbollah dans son premier communiqué. Dans sa deuxième déclaration, le Hezbollah libanais a également déclaré que la position militaire d'Al-Rahab avait été ciblée par une attaque au mortier ayant causé des pertes à l'ennemi. Le mouvement libanais Hezbollah précise dans son troisième communiqué avoir ciblé les équipements d'espionnage du régime sioniste sur le site militaire Al-Rahab avec un drone suicide qui a directement touché la cible. Dans son quatrième communiqué, la résistance islamique du Liban a revendiqué avoir ciblé le rassemblement des soldats du régime sioniste aux abords du site militaire Migav Am à l'aide des armes appropriées et avoir causé des dégâts à l'ennemi. Par ailleurs, les combattants de la résistance islamique ont mené samedi 24 août 2024 une attaque aérienne avec un drone d'attaque sur le quartier général de la brigade Ouest nouvellement créée au sud de la colonie Yahara, visant les emplacements de ses officiers et soldats. Les cibles ont été touchées avec précision, rapporte un cinquième communiqué du Hezbollah. Le Hezbollah libanais a annoncé dans son sixième communiqué que le rassemblement de soldats de l'armée israélienne sur le site militaire Hadab Yaron avait été visé au moyen d'obus d'artillerie qui a infligé des dégâts à l'ennemi.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors dans le débat d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer encore et encore sur les crimes barbares commis par le régime israélien à l'encontre des Palestiniens. Par exemple à Khal Younes au sud de la bande de Gaza où des bombardements contre des bâtiments résidentiels ont fait des dizaines de morts au cours de ces 40 dernières 8 heures. Mais également, la guerre dans la bande de Gaza a débordé en Cisjordanie où les colons israéliens s'en prennent violemment aux Palestiniens. Nous allons donc développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont l'Algérie et la Chine, ont dénoncé la violence des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, qui s'est aggravée depuis le début de la guerre à Gaza. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amir Benjama, a mis en garde contre le risque de voir la guerre à Gaza déborder sur la Cisjordanie occupée. La tragédie de Gaza pourrait se reproduire en Cisjordanie, a-t-il averti jeudi lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la Palestine. Il a fustigé le régime israélien pour avoir anéanti tout espoir d'un État palestinien indépendant et pour avoir étendu les colonies en violation du droit international. Les responsables israéliens refusent la création d'un État palestinien. Ils annexent des terres palestiniennes, ils étendent les colonies et prennent fréquemment d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Ils renforcent les colons terroristes en Cisjordanie, a dénoncé l'ambassadeur algérien. Benjama a critiqué la réponse de la communauté internationale à la crise à Gaza, la qualifiant d'inadéquate. L'envoyé chinois auprès de l'ONU Fu Kong a également critiqué la politique d'expansion des colonies de peuplement par Israël et les frappes en cours contre Gaza. Il a appelé Israël à respecter ses obligations internationales en ouvrant tous les points de passage frontaliers et en mettant fin à ses frappes pour empêcher une nouvelle escalade.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat de Téhéran des experts des questions internationales, en commençant par Maître André Chamy, analyste politique et juriste international qui est avec nous depuis l'Alsace. Bonjour Maître Chamy.
Bonjour à vous tous, bonjour à vos téléspectateurs, ainsi qu'à votre invité, notre chère amie Madame Obala.
Voilà justement un grand bonjour à Madame Gada Obala, universitaire et géopolitologue qui est avec nous depuis Beyrouth. Madame Obala, bonjour.
Oui, bonjour à vous et encore merci pour m'avoir invité sur votre plateau. Et bien entendu, je suis comme toujours ravie d'être invité avec un autre invité, un cher ami, un cher collègue, Monsieur Maître André Chamy.
Vous connaissez donc, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire, car il s'agit d'un débat en fin de compte. Ma première question va s'adresser à Gada Obala, donc géopolitologue. Et alors, la guerre dans la bande de Gaza a débordé en Cisjordanie occupée, où des colons israéliens s'en prennent quotidiennement. Donc aux Palestiniens, que ce soit dans la mosquée de l'Aqsa ou ailleurs. Est-ce que vous croyez que cette guerre génocidaire va déborder en Cisjordanie également, malheureusement?
Oui, alors concernant... Allô?
Oui, nous vous entendons, oui.
Alors concernant le débordement de la Cisjordanie, ce n'est pas nouveau, puisque de toute façon, toute la question de la guerre à Gaza... C'est une question qui est liée à un ancien plan ou à une représentation géopolitique que Netanyahu tient absolument à exécuter. C'est pour ça qu'il a dit au début de cette guerre, c'est-à-dire le 7 octobre, qu'il s'agissait d'une guerre ou d'une bataille de présence, donc d'identité, donc qui est liée à le projet Grand Israël. Et donc, pour pouvoir appliquer ce projet, il faut dans un premier temps rendre invivable Gaza pour les Gazaouis et en fait les forcer à se déplacer vers l'Égypte. Puis ce sera le tour de la Cisjordanie, dans laquelle il y a eu des constructions de colonies depuis des dizaines d'années en violation au terme des accords d'Oslo. Donc vous avez à peu près 800 000 colons qui ont été récemment armés par Ben Rafir, ce fameux ministre de la sécurité ou de la sécurité nationale, de ce qu'on appelle l'entité sioniste. Et donc, en fait, vous avez des Palestiniens en Cisjordanie. Or, tout le monde s'attend, jusqu'à aujourd'hui, et cela a été à plusieurs fois affirmé par plusieurs observateurs et experts en affaires palestiniennes, que la Cisjordanie n'a pas dit encore son dernier mot. Et en effet, on a assisté dans les deux dernières semaines plusieurs opérations de qualité de la résistance islamique palestinienne contre justement... les forces d'occupation israéliennes qui tentent chaque jour de faire des incursions terrestres en Cisjordanie et détruisant plusieurs ruelles, routes, maisons, etc. Donc, il y a une résistance qui est en train de se former à l'intérieur même de la Cisjordanie. Et pour appliquer donc le fameux projet de Netanyahu, il faut aussi se débarrasser des Palestiniens qui se trouvent en Cisjordanie et donc déplacés vers la Jordanie. Et donc, vous avez Gaza et vous avez la Cisjordanie, ce sont deux fronts auxquels l'armée d'occupation israélienne doit affronter. Et vous avez un troisième front qui est le front nord de l'entité sioniste, ou plutôt le nord de la Palestine occupée, avec le Liban Sud. Donc en fait, actuellement, l'armée d'occupation israélienne est confrontée à l'intérieur, pour la première fois depuis sa création, à trois fronts. Or, moi, je mise énormément sur le front de la Cisjordanie, qui effectivement n'a pas encore dit son dernier mot, et qui, selon des experts militaires israéliens, craignent en fait qu'il y ait un deuxième scénario, comme celui du 7 octobre, mais ce sera de la part venant de l'intérieur de la Cisjordanie, vers l'enveloppe de la Cisjordanie. Mais vous avez également quelque chose qui est encore plus grave dans la Cisjordanie, contrairement à Gaza. Vous avez 800 000 colons qui sont armés. Et donc, à n'importe quel moment, ces colons peuvent effectuer des actes contre les Palestiniens. Et justement, c'est ce qui s'est fait il y a deux jours, trois jours, de manière trop alarmante. Alarmante pour qui? Pas pour les Palestiniens. Pour les Israéliens qui, selon le chef du Shabbat, il a bien déclaré que si ces agressions de la part des colons israéliens qui se trouvent dans la Cisjordanie se poursuivent, cela risque de mettre en danger Israël en tant qu'entité, en tant qu'État, entre guillemets, viable. Là.
Absolument. Merci pour cette introduction. Vous avez presque tout dit. J'aimerais connaître à présent celle de Maître André Chavet qui est avec nous depuis l'Alsace. Alors, le débordement en Cisjordanie par des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens, ce n'est pas quelque chose de nouveau selon Gada Oubala. Est-ce que vous êtes d'accord?
Moi, je dirais que la situation est beaucoup plus compliquée. Je partage tout ce qu'a dit Madame Oubala, mais moi je dirais que la situation est beaucoup plus compliquée pour l'entité sioniste. Parce qu'en réalité, ce à quoi nous assistons actuellement, ce sont les prémices du grand conflit qui va se passer en territoire palestinien, c'est-à-dire la guerre de 48 qui a abouti à l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de la terre de Palestine en croyant qu'ils allaient y retourner peu de temps après parce qu'ils ont eu des promesses comme quoi il y aura eu le soutien de leurs frères arabes pour leur permettre de libérer les territoires qui ont été occupés par les Israéliens. Nous sommes en train de voir, mais en filigrane, le prochain conflit est pas seulement en Cisjordanie et à Gaza, puisque évidemment il y a des provocations de la part des colons, il y a des provocations de la part de l'armée et de la police israélienne, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave qui est en train de se faire, c'est soit un nouveau dessein pour la Palestine, c'est-à-dire l'expulsion de tous les Palestiniens vers l'Égypte et vers la Jordanie, puisque c'est le projet des sionistes pour s'emparer de tout le territoire palestinien, ou bien ce qui va se passer, et mes prévisions, en tout cas ma vision de la chose, c'est qu'une guerre généralisée, c'est-à-dire même le territoire de 48 va se réveiller. Je prends juste comme exemple ce qui s'est passé par rapport au quartier Al-Jaba, au sein de la ville d'Al-Quds. Quand les Israéliens ont voulu confisquer ce bout de terrain, si j'ose dire, mais qui est devenu un terrain symbole, et notamment par rapport à sa position vis-à-vis de la mosquée d'Al-Aqsa, ce ne sont pas uniquement les Palestiniens de Cisjordanie qui se sont réveillés, ce sont les Palestiniens de 48. Et on a vu comment ce réveil a eu lieu à Haïfa, à Lod, dans d'autres villes palestiniennes. Et évidemment, à ce moment-là, nous avons assisté à des scènes, je vous demande de bien le voir, repasser, si j'ose dire, en temps utile, les séquences de ce qui s'est passé à ce moment-là, et notamment dans la ville de Lod, par rapport aux Palestiniens, ce sont les colons israéliens qui ont déguerpi et qui ont quitté appartements et maisons parce qu'il y a eu une révolte réelle de la part des Palestiniens qui a tellement fait peur aux colons qui sont pour moi là en situation précaire parce qu'ils savent intimement qu'ils ne peuvent pas rester indéfiniment ici. Et ce sont les trois territoires qui, à un moment donné, qui vont se réveiller. Le territoire de 48, croyez-moi, il y a quelque chose qui va se produire. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais c'est quelque chose qui est, si j'ose dire, dans les valises, qui, à un moment donné, qui va sortir. Et le jour où ça va sortir, les trois territoires vont se réveiller. Et c'est là que je rejoins ce que disait mon ami Madame Oubala, c'est là que les autres fronts vont se réveiller, c'est-à-dire notamment, vous avez le Liban, vous aurez même la Syrie, puisque la Syrie aujourd'hui colmate, si j'ose dire, ses blessures de sa guerre civile, mais également le Yémen, l'Irak. Là, la tension va être tellement forte que l'antisioniste va s'effondrer. Aujourd'hui, nous assistons à des fractures graves qui se passent dans les fondations, dans les structures fondatrices de l'antisionisme. Et le jour où ça va venir, cette grande confrontation, c'est le dernier coup de marteau, le dernier coup de marteau-piqueur, si j'ose dire, qui vont intervenir pour faire tomber l'ensemble de l'antisioniste. Ça s'approche tout doucement mais sûrement. Il ne faut pas se fier à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les provocations et les ripostes de la part des Palestiniens de la Cisjordanie, parce que c'est une révolte de la jeunesse qui ne fait plus confiance en l'autorité palestinienne, parce que cette autorité palestinienne a perdu toute crédibilité. Ces mêmes Palestiniens ne font plus confiance dans les voisins arabes, c'est-à-dire la Jordanie et l'Égypte, parce que c'est un échec total. Mais il y a également quelque chose qui se passe en Jordanie, parce que les Jordaniens, il y a une bonne majorité de Jordaniens, c'est ce qui est reproché à un moment donné à la Jordanie, en disant pourquoi vous n'intégrez pas les Palestiniens de ce Jordanie chez vous et on vous les renvoie, puisque c'est le projet sioniste. Et bien évidemment, les Jordaniens vont se réveiller parce qu'ils vont comprendre que un grave danger les guette par l'envoi, si je veux dire, de la population palestinienne qui se trouve en Cisjordanie vers la Jordanie. Comme ce qui a été prévu là, il y a quelque temps, il y a 10 mois ou 11 mois, par rapport à la population de Gaza, l'objectif de Netanyahou n'était pas de lutter contre la masse ou de combattre la masse. L'objectif réel de Netanyahou, c'est l'expulsion,
absolument,
qui a été annoncée dès le premier jour, de tous les habitants de Gaza vers l'Égypte. Et l'Égypte ne s'est pas réveillée. L'Égypte est en train de défendre aujourd'hui ce qu'on appelle le passage de Rafah et du couloir de Philadelphie, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Absolument.
Mais en réalité, ce qui est visé, c'est également la grave crise démographique et politique pour l'Égypte. Et si ces pays-là ne se réveillent pas et ne réagissent pas réellement, évidemment, nous aurons quelque chose de particulièrement grave qui va emporter toute la région. Et nous avons aujourd'hui un petit spectacle par rapport à ce qui nous attend dans les prochains mois, pour ne pas dire dans une période qui se rapproche et qui devient de plus en plus courte.
Tout à fait. Madame Kadaoubala, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision intéressante de Maître Chami quant à la crainte du régime israélien ?
Crainte du régime israélien, bien sûr, tout ce qu'a dit M. André Chami, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui m'a donné pas mal d'idées en ce qui concerne justement ce que craint l'entité sioniste à l'intérieur. Il ne faut pas oublier aussi les Haredim. Il faut rappeler juste avant le déluge d'Al-Aqsa. Vous vous souvenez, Netanyahou avait lancé des réformes au niveau judiciaire. Et donc, il voulait en fait, à travers ces réformes, mettre la main sur le pouvoir judiciaire. Pour les laïcs israéliens, il s'agit en fait d'une tentative de modifier l'État démocratique et laïque d'Israël. Donc, les Israéliens qui sont laïcs sont descendus à la rue. Mais pour pouvoir faire son projet, le grand Israël, il a besoin bien entendu des extrémistes. Or, pour pouvoir exécuter ce projet, il faut qu'il ait le plein pouvoir au niveau judiciaire, au niveau exécutif, etc. Au niveau législatif, c'est bien entendu à travers justement une certaine majorité. Bon, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu le début de Al-Aqsa, il a saisi l'occasion en faisant un cabinet restreint. Et donc, tant qu'il y a la guerre, tant qu'il aura plein pouvoir de ce cabinet restreint, et donc, il a nommé dans ce cabinet restreint des gens qui sont extrémistes. Mais aussi, il y a certains responsables militaires, politiques, avec qui il ne s'accorde pas à cause justement de la non-réalisation des objectifs qu'il avait annoncés concernant sa guerre à Gaza et justifie justement les crimes de guerre qu'il a commis. Maintenant, ce qui s'est ajouté justement dans les manifestations qui ont eu lieu avant le déluge d'Al-Aqsa, on a d'un autre côté les Haredim qui refusent et qui sont très importants, qui sont une majorité de jeunes et qui refusent d'être recrutés par l'armée israélienne parce qu'ils considèrent que tel n'est pas leur devoir. Donc ça a été une autre crise identitaire. Et vous avez encore la question des colons extrémistes qui ont été armés par Ben Rafir récemment. Donc, à mon avis, si je veux résumer entre ce que je suis en train de dire et ce que M. André Chami, je crois, et c'est l'avis d'ailleurs, je suis en train peut-être de voler l'idée de quelqu'un, mais c'est l'avis d'un observateur arabe ici, Il faudrait s'attendre à un printemps. Comme il y avait un printemps arabe, et ben c'est le moment où il y aurait un printemps juif, sioniste, après la guerre. Quand on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a que le jour après la guerre, ben le jour après la guerre, c'est que vous aurez sans doute un printemps sioniste, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, beaucoup de remises en question, beaucoup de remises en cause au sein de la société israélienne. Et j'ai oublié en plus de citer la quatrième catégorie, qui est la catégorie des familles des otages. Et donc, vous avez plusieurs forces sociales qui vont s'entre-déchirer à l'intérieur de la société israélienne pour redéfinir ce qu'est l'État israélien, ce qu'est l'identité israélienne qui a été complètement remise en cause avec cette guerre à l'intérieur. Donc l'une des conséquences géopolitiques internes de cette décision de l'Aqsa, c'est qu'elle a remis en cause toute l'identité nationale d'Israël et des Israéliens.
Oui, très intéressant. Merci. Alors, Maître André Chami, est-ce que, avec ce terme, le printemps sioniste, est-ce que vous croyez que c'est proche déjà, c'est-à-dire vraiment la jeunesse, surtout israélienne, qui va peut-être changer la donne?
Pour moi, ça ne sera pas un printemps sioniste. Hein. Pour moi, ça va être beaucoup plus grave que cela pour l'entité sioniste, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'entité nationale dans cette entité. Il n'y a pas d'identité nationale. Pour avoir des citoyens en bonne et due forme, si j'ose dire, dans un pays, il vous faut une identité nationale, mais aussi il vous faut une appartenance, une adhésion à cette identité nationale. Or, cette appartenance, c'est comme une espèce de, vous savez, dans une boutique, chacun prend ce qu'il veut. Les religieux prennent ce qui les intéresse, et encore à l'intérieur des religieux, comme le disait Madame Obala, à l'intérieur des religieux, il y a ceux qui croient à l'existence de l'entité sioniste, mais il y a ceux qui ne croient pas à l'existence de l'entité sioniste et qui ne veulent même pas croire que c'est le lieu ou c'est l'endroit où le Messia ou le Messie va revenir pour rencontrer en quelque sorte le peuple juif. Il y a d'abord cette question-là, mais il y a également la question du morcellement de la société israélienne. Il ne faut pas l'imaginer comme une société cohérente, avec une cohésion nationale, etc. Ça n'existe pas. Et maintenant, la guerre l'a montré, l'a mis à nu, si j'ose m'exprimer ainsi. Et à ce moment-là, évidemment, ces fractures, moi je parlais de la fracture par rapport à l'entité vis-à-vis de ce qu'on appelle le danger externe, mais vous avez le danger interne qui vient s'agglutiner dessus. C'est-à-dire, à un moment donné, ce danger interne, et on en a vu également, effectivement, comme le dit Mme Obala, avec les manifestations, nous avons pu constater qu'il y a cette volonté de ne pas vivre ensemble, c'est-à-dire le vivre ensemble qui existe dans tout pays où il y a une identité nationale, nous avons pu constater que ça n'existe pas. Le troisième point, à mon sens, qu'il faudrait regarder de très près, c'est le phénomène migratoire vers l'extérieur, c'est-à-dire le départ des habitants, je les appelle comme ça parce qu'aujourd'hui ils habitent ici, mais demain ils habiteront ailleurs, les habitants de l'entité sioniste, où est-ce qu'ils vont? Puisque si vous habitez dans ce coin-là, parce qu'on vous a promis la sécurité. Or, la sécurité n'est plus garantie. Et en plus, on vous demande de servir un pays qui n'assure pas votre vision de l'identité nationale. Et votre sécurité n'est pas garantie. Et à ce moment-là, vous dites, qu'est-ce que j'y gagne? J'ai toujours utilisé la phrase que j'ai même rappelée sur votre chaîne. Il ne faut pas regarder qui a envie de venir vivre en Israël, parce que tout le monde a envie de vivre dans un pays où il y a le soleil, il y a le beau temps, il y a la Méditerranée. Mais il faut voir qui a envie de mourir pour ce pays-là, parce que pour défendre l'identité nationale, il faut avoir des candidats pour cela. Et là, ils vont manquer de plus en plus de candidats. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à renouveler les réservistes. Et ils ont eu un problème de recrutement, même en pleine guerre. Imaginez que vous faites appel aux Haridim, comme le dit Mme Obala, et ils disent « je viens pas ». Et le dernier appel qui concerne 1200 ou 1500 personnes, il y en a 200 qui ont pu être de force embrigadées. C'est-à-dire vous avez un problème de protection même du pays qui va venir de plus en plus accru dans ce pays-là. Nous avons donc une espèce de dynamique qui est en train de se préparer. Et c'est ça qui va faire exploser ce pays-là. Vous avez le danger externe, c'est-à-dire les Palestiniens qui sont considérés comme les ennemis directs. Vous avez le monde extérieur. Pour l'instant, ils croyaient qu'en faisant des alliances avec des pays éloignés comme les Émirats Arabes Unis, comme le Bahreïn, la paix qui a été engagée avec l'Égypte et la Jordanie, ça allait assurer la sécurité, en tout cas une sorte de protection par rapport à l'idée d'une guerre régionale. Là, cette guerre du 7 octobre, qui a démarré le 7 octobre, a mis à nu l'antisionisme par rapport au danger extérieur, c'est-à-dire vous n'êtes plus à rassurer par rapport à votre environnement. Et évidemment, cet environnement est devenu non seulement par rapport aux Palestiniens eux-mêmes, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle les fronts de soutien, c'est-à-dire le Yémen, le Liban en premier lieu, et l'Irak. L'Irak qui est éloigné, qu'on croyait loin, qui ne peut pas participer, ben si, il participe. Le Yémen qu'on croyait être loin, ben il a participé, il a fait effondrer l'économie. Je ne parle même pas des attaques militaires, mais je parle de l'économie, ce qui constitue l'essence même de l'antisionisme. L'économie se trouve paralysée grâce au front du Yémen. C'est-à-dire le front de soutien est devenu cohérent et capable de paralyser ce pays, est capable de ruiner le pays. Nous sommes aujourd'hui à la veille, si j'ose dire, de quelque chose de particulièrement grave qui menace l'existence même, et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois, l'ensemble de la classe politique israélienne parle d'une guerre existentielle, parce qu'ils voient plus loin que certains Arabes, c'est-à-dire les Égyptiens qu'eux se trouvent menacés, ils ne voient pas la menace. Les Jordaniens qui se trouvent eux-mêmes menacés, ils ne voient pas la menace. Le Liban l'a compris, le Yémen l'a compris, absolument, l'Irak l'a compris, la Syrie l'a compris, mais pour l'instant, avec ses faibles moyens, ne peut pas participer. Mais cela est en train d'être reconstruit grâce justement au front de soutien. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle époque, à une nouvelle ère qui s'annonce pour cette entité. Et le phénomène démographique va être particulièrement en défaveur de cette entité, et qui va aboutir tôt ou tard à la ruine, pour ne pas dire à la disparition de cette entité.
Absolument. Donc nous sommes face à un avenir du régime israélien très, très incertain. Maître André Chami, juriste international, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Un grand merci à Madame le Docteur Gada Oubala qui nous a accompagné depuis Beyrouth et a répondu à nos questions. Eh bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bonsoir et merci de nous rejoindre. Pour cette édition de l'Afrique économie, nous allons réviser et passer en revue l'actualité africaine la plus importante dans le domaine économique. Restez avec nous. En RDC, la capacité de production de la mine Kamoa-Kakula augmente à 60 000 tonnes par an. Premier producteur de cuivre d'Afrique et l'un des leaders de la production mondiale, la RDC tire d'importants revenus de ce secteur où les prix sont en hausse depuis plusieurs mois. Elle peut compter sur Kamoa-Kakula, plus grande mine de cuivre du continent, pour continuer d'accroître ses recettes. Ivanhoe Mines a annoncé cette semaine l'entrée en production commerciale du troisième concentrateur de cuivre de son projet Kamoa-Kakula en RDC. Cette nouvelle usine de traitement porte la capacité de production du complexe minier de 450 000 tonnes à plus de 60 000 tonnes. L'information intervient quelques semaines après la publication du bilan opérationnel du premier semestre 2024, dans lequel la compagnie rapporte une production de 186 925 tonnes sur la mine. Si cette performance représente une baisse en glissement annuel de 5%, la compagnie devrait corriger le tir au deuxième trimestre grâce au démarrage de la production commerciale du nouveau concentrateur. Telecom Namibia prévoit d'investir jusqu'à 100 millions de dollars dans son réseau. Telecom Namibia multiplie les investissements dans son réseau afin d'être plus compétitif. Sur le marché télécom national, l'opérateur historique revendique environ 620 000 abonnés contre 2,5 millions pour son principal concurrent MTC. La société publique Telecom Namibia a engagé un programme visant à investir entre 90 et 100 millions de dollars pour améliorer la qualité de ses services et étendre la couverture de son réseau dans le pays. L'investissement a été révélé par Stanley Chanapinda, directeur général de l'opérateur historique, dans un entretien avec le média Debrief. Le programme d'investissement vise à améliorer certains sites mobiles en les faisant passer de la 2G à la 3G à la 4G. Il prévoit également de réduire la surcharge sur certains sites télécoms afin de garantir une qualité de service optimale aux populations. Cet investissement s'inscrit dans le cadre des actions engagées par la société Telecom pour moderniser son réseau conformément à son plan d'affaires stratégique intégré 2027. En juin dernier, l'entreprise a signé des accords de partenariat distincts avec Huawei et une co-entreprise formée par ZTE et Huafool. Au Ghana, le Thaïlandais Thai Union se renforce dans l'industrie de la pêche. Au Ghana, le poisson fournit environ 60% des besoins en protéines animales. Alors que la denrée est principalement transformée et consommée sur le marché local sous forme fumée, séchée ou salée, les conserves sont également sollicitées à cette fin. Au Ghana, Thai Union Group, l'entreprise thaïlandaise de pêche et de transformation de produits de la mer, a mis en service un entrepôt frigorifique sous température contrôlée basé à Tema dans la région du Grand Accra le 18 juillet dernier. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur le site de la compagnie. Du coût total de 14 millions de dollars, cette installation dispose d'une capacité de stockage de 8000 tonnes consacrée au thon. Cet entrepôt frigorifique remplace notre solution précédente qui consistait à louer des entrepôts frigorifiques disséminés dans la ville de Tema. L'installation nous permet désormais d'économiser sur les coûts de location, de renforcer notre chaîne d'approvisionnement ainsi que la compétitivité de nos activités. Sur le segment de la transformation, peut-on lire dans le communiqué. MPOX, l'Union africaine, déclare une urgence de santé publique. Entre janvier 2022 et juillet 2024, plus de 37 000 cas et 1 400 décès liés à MPOX ont été enregistrés dans 15 pays membres de l'Union africaine. L'Urgence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a officiellement déclaré une urgence de santé publique en réponse à la propagation inquiétante du MPOX, variole du singe, à travers le continent. C'est ce qu'indique un communiqué de l'agence publié le mardi 13 août 2024. Face à cette menace, Africa CDC a pris des mesures pour coordonner les réponses aux urgences sanitaires majeures et mobiliser des ressources essentielles dans les pays les plus touchés. Une équipe de gestion des incidents a été constituée et un accord a été signé pour la distribution de plus de 215 000 doses de vaccins. Dr Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC, a insisté sur l'urgence d'une action rapide et décisive pour renforcer les systèmes de santé améliorer la surveillance et les capacités de réponse, notamment grâce à une approche intégrée One Health. Il a également lancé un appel pressant à la communauté internationale pour un soutien accru, soulignant que l'Afrique n'a pas reçu l'assistance nécessaire. Lors de la déclaration précédente de l'Organisation mondiale de la santé en 2022-2023. L'Afrique du Sud est le cinquième client mondial de la SFI et le plus important en Afrique. Les investissements de la SFI en Afrique du Sud s'élèvent à 3,7 milliards de dollars répartis entre 49 clients, suit le Nigeria avec 2,23 milliards de dollars. L'Afrique du Sud est le premier client en Afrique de la Société financière internationale et le cinquième au niveau mondial. Le portefeuille d'investissement engagé par la SFI au profit de la nation arc-en-ciel s'élève actuellement à 3,7 milliards de dollars, soit le plus important du continent, a-t-on appris d'une note publiée le mercredi 21 août 2024 par cette filiale du groupe de la Banque mondiale. L'institution financière internationale revendique 49 clients en Afrique du Sud, évoluant dans une diversité de secteurs tels que les énergies renouvelables, la construction durable, l'inclusion financière et l'énergie. Le plus récent investissement de la SFI dans le pays est un prêt senior en monnaie locale d'environ 150 millions de dollars accordé à la ville du Cap pour l'extension et la mise à niveau de ses infrastructures de base. Le prêt d'une maturité de 18 ans a été signé ce vendredi 23 août, en marge de la visite de 3 jours en Afrique du Sud de Sergio Pimenta, vice-président de la SFI pour l'Afrique. Au Nigeria, le gouvernement prévoit un mécanisme d'assurance pour les agriculteurs. Au Nigeria, l'agriculture contribue à hauteur de 22,7% au PIB et emploie environ 38% de la population active. Entre la sécheresse et les inondations, les risques associés au secteur agricole constituent une préoccupation pour le gouvernement. Au Nigeria, le gouvernement a décidé d'intégrer un mécanisme d'assurance agricole dans le cadre du National Agricultural Growth Scheme Agro Pocket. C'est ce qu'a annoncé Aliou Abdoulali, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le 21 août. Ce programme d'un coût total de 134 millions de dollars, financé par la Banque africaine de développement, vise notamment à renforcer la productivité agricole en favorisant un meilleur accès des petits exploitants agricoles aux intrants. Pour expliquer la décision du gouvernement, M. Abdoulali met en avant la menace que représentent les différents risques associés au secteur agricole. À titre indicatif, les producteurs de gingembre de l'État de Kaduna ont déclaré des pertes financières évaluées à 8,7 millions de dollars en 2023, en raison de l'apparition d'une maladie fongique qui a réduit les récoltes de 90%.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Oh, Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا